Shalom, shalom les koulam, boker tov, Donc, voilà, boker tov. Est-ce que. Non, vous n'êtes point là. On commence le cours. Yofi, alors boker tov à tout le monde. On va donc commencer notre étude. On continue dans notre série, la Névoa dans tous ses états, quatrième édition. Alors après avoir commencé à parler du livre de Yehoshua, on a fait deux cours sur le livre de Yehoshua pour comprendre les bases de la Névoa lorsqu'on rentre en Israël. Eh bien, nous arrivons maintenant dans la deuxième étude, dans le livre de Shoftim. Alors, lorsqu'on avait étudié, on a d'abord étudié le deuxième chapitre du livre de Shoftim pour nous expliquer justement quels étaient les enjeux lorsque nous étions pas seulement en train de rentrer en Israël, mais lorsque, une fois rentrés, eh bien, nous devions faire face à la réalité de la vie en Israël. Et là, maintenant, nous allons arriver au chapitre 6 et le début du 7 du livre de Shoftim. Nous sommes dans l'histoire extraordinaire de Maasé Gidon. Voilà, aujourd'hui nous nous intéressons au Shofet Gidon de la tribu de Ménaché. Alors, de quoi s'agit-il? Quelle est l'histoire? Alors, nous sommes donc au chapitre 6 du livre de Shoftim, verset Aleph. Vayasu ben Israël ara beine Hashem, vaitenem Hashem beyad Midian, sheva shanim. Vataz yad Midian al Israël, mipne Midian. Asulem ben Israël et aminarot, asher beharim, vet amearot, vet ametsadot. והיה עם זרע ישראל, ועלה מדיין ועמלק, ובני קדם, ועלו עליו, ויחנו עליהם, וישחיתו את יבול הארץ, אשר בואכה עזה, ולא ישאירו מחיה בישראל, ושה ושור וחמור, כי הם ומקניהם יעלו, ואלוהם יאובאו, והעולה, תראו, באו, כדי הרבה לרוב, ולהם ולגמליהם, אין מספר, ויבוא בארץ לשחתה. כלי לסיטואציון, ici, dans notre chapitre. Eh bien, en fait, d'abord, il y a plusieurs choses à mettre en place. Ici, nous sommes face à un ennemi qui est totalement différent des autres ennemis qu'on va voir dans le livre de Shoftim. C'est pour ça que je me suis intéressé à cette histoire de Gidon particulièrement, parce que le fait qu'on soit face à Midian, eh bien, a un intérêt tout particulier, a une signification toute particulière. Parce que Midian, eh bien, c'est l'alter ego, quelque part, d'Israël. Je vous explique. Midian, qui est-ce? Qui est Midian? Eh bien, lorsqu'on regarde dans le livre de Bereshit, eh bien, on va se rendre compte que Midian n'est autre que celui dont on n'a pas vraiment réglé le cas. Je m'explique. Dans le livre de Bereshit, eh bien, les choses sont assez claires quant à la succession d'Abraham entre Yitzhak et Ishmaël. À ce moment-là, les choses sont assez évidentes. Ishmaël a été mis de côté et c'est Yitzhak qui est le patron. Mais Abraham a eu encore 6 enfants. Il a eu encore 6 enfants avec Ketura, qu'il a envoyé Kedma el Eretz Kedem, loin là-bas, à l'est. Sauf qu'il y en a un des 6 qui n'a pas été si loin que ça. Ce un des 6, il s'appelle Midian. Midian est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham Avinu. Donc, qu'est-ce qu'il représente pour nous? Eh bien, il représente un des descendants de la Torah d'Abraham. Un des descendants de la relation à Dieu, made in Abraham. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle lorsque Moshe s'enfuira de l'Égypte, eh bien, qu'il partira d'Afka à Midian. C'est-à-dire qu'on voit bien dans le texte que lorsque Moshe part de l'Égypte, s'enfuit, eh bien, il sait très bien où il veut aller. Il va à Midian. En d'autres termes, Midian, ce n'est pas juste à côté, hein, ce n'est pas le pays qui est collé à l'Égypte. Donc, si Moshe Rabbeinu va à Midian, c'est qu'il sait pourquoi il veut aller là-bas. Eh bien, pourquoi il veut aller là-bas? Alors, tout d'abord, il veut aller là-bas pour former un peuple. Puisque nous dirons Rashi, il cite nos sages, qui dit que Miyakov avinu l'Ahmad, c'est pour ça qu'il a été au puits. Et donc, il veut trouver une femme pour y créer un nouveau peuple, parce qu'il a été dégoûté tant de l'Égypte que des Béné Israël. Et donc, il va chez Midian chercher eh bien, cette possibilité de retrouver un nouveau lien avec Dieu. Donc, Midian, si tu veux, c'est là où Moshe va étudier, c'est son Bet HaMidrash. C'est donc la Hava Amina de Moshe. C'est la première réflexion de Moshe de comment on doit être lié à Dieu. En d'autres termes, lorsque on doit faire face à Midian, c'est toujours pour avoir une espèce de confrontation profonde, de vérifier quel est notre véritable lien avec Dieu. Et donc ici, Midian nous attaque, Midian nous persécute pendant 7 ans, mais ce n'est pas du tout comme les différents tyrans, les différents rois qui nous ont persécutés au début du livre de Shoftim, quand on voit avant. C'est-à-dire qu'avant, il y a un patron, un roi qui vient, qui s'implante et qui règne sur les Bnei Israël. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, pendant 7 ans, il y a une terreur qui est mise en place par Midian. Ils ne viennent pas s'installer en Israël, mais ils sont les patrons de la région et de temps en temps, ils viennent faire des actions coup de poing où ils viennent piller tout ce qu'ils peuvent piller en Israël. Et donc, on ne sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, qu'est-ce que ça représente le fait que Midian ne sont pas des gens qui viennent s'installer, mais qui viennent piller? C'est-à-dire que Midian ne viennent pas dire « Nous, on veut venir en Israël ». Non. Parce qu'ils ne cherchent pas à être le remplaçant d'Israël. Midian, ils disent « Nous, on est chez nous, mais nous sommes une alternative à Israël ». Et c'est donc pour ça qu'il va falloir faire tellement attention à notre relation avec Midian. C'est d'ailleurs pour ça que la guerre qu'on fait contre Midian à l'époque de Moshe est si violente. Parce que notre Itmo des doutes, notre relation avec Midian est absolument particulière. Ils ne veulent pas nous remplacer, ils veulent être une opposition, une alternative, une autre façon de la relation à Dieu. Et c'est contre cette alternative qu'il va falloir se battre. Donc je reviens dans notre chapitre 6, verset 20. Vaïgdal Israël me'od, Vaïdal Israël me'od mi pene Midian, Vaïzaku bene Israël el Hashem. Am Israël est complètement sans le dessus après ces 7 années de persécution, et donc, Vaïzaku el Hashem. Bon, on connaît, je vous ai expliqué la semaine dernière, que c'est la roue classique du livre de Shoftim. On fait n'importe quoi, Dieu nous envoie un ennemi, on n'en peut plus de l'ennemi, on pleure, il nous envoie un chauffet. Donc, là, voilà ce qui se passe. Vaïki za'akou bene Israël el Hashem, alodot Midian, vaishlach Hashem ish navi el bene Israël. Dieu envoie un navi pour les bene Israël. Yomer lahem ko amar Hashem, Elohe Israël, anochi eliti etrem mi Mitzrayim veotzi etrem mi bet avadim, veatzil etrem miyad Mitzrayim umiyad lachatzechem, והגרש אותם מפניכם ואתן עליכם את ארצם ואומרה לכם אני השם אלוקיכם לא תראו את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם ולא שמעתם בקולי. En français, voilà, le malach, le navi, il vient dire voilà, bon Dieu il a dit bon moi je vous ai sorti d'Égypte, je vous ai dégagé tous vos ennemis de la terre d'Israël, je vous ai juste demandé de ne pas devenir des serviteurs des dieux cananéens. Et vous ne m'avez pas écouté. Voilà. Zéo. C'est tout ce que le Navi il a à dire? Eh bien oui. C'est-à-dire que c'est tout ce que le Navi il a à dire. Le Navi vient nous expliquer c'est quoi le problème et pourquoi est-ce qu'on est persécuté? Ben parce qu'on a fait l'idolâtrie. Parce qu'on a, oui, été yaré, mais Eloé a émouri. on a suivi les dieux idolâtres de Canaan. D'ailleurs, entre parenthèses, petite question, lama. On voit bien qu'ils connaissent Dieu, puisque à chaque fois qu'ils ont un problème, ils crient Dieu. Donc, ils connaissent très bien Dieu. Alors, pourquoi ils décident d'aller faire de l'idolâtrie? Alors, on connaît cette Gemara qui nous dit que le Yitzra de Avodazara, le Yetzer de Avodazara était extrêmement puissant. Mais il y a un autre truc. C'est que c'est plus fun, la Avodazara chez l'égoïme. C'est beaucoup plus fun que la Avodat Hashem. Puisque dans la Avodat Hashem, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas du tout, de harayot. Ça ne passe pas par la sexualité, la Avodat Hashem. Alors que dans toutes les autres cultures et dans toutes les autres idolâtries, ça passe par Gilou et Harayot. Et nous dira le Talmud, en fait, Israël a fait l'idolâtrie en vrai parce qu'il voulait se permettre les relations charnelles. C'est quand même vachement plus fun chez eux que chez nous. Et donc le Navi, il dit, mon problème, je viens au nom de Dieu, il dit Dieu, il dit, mon problème, c'est que vous m'avez abandonné. Vous avez fait de l'idolâtrie. Et on n'en dit pas plus. Pourquoi on n'en dit pas plus? Parce que vous allez voir que c'est l'homme échané. Et Azma, on a fait l'idolâtrie. Azma. Maase beben ameler shemarad be'aviv. Voilà le fils du roi, de Sipure Maasiot, de Rabbi Nachman Breslav, qui s'est révolté contre son père. Et son père lui dit, mais enfin, je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné, pourquoi tu te révoltes contre moi? Il dit, Nachon, tu m'as tout donné, bien sûr. Mais dans le tout que tu m'as donné aussi les problèmes. Tu m'as donné aussi la difficulté. Tu m'as donné aussi le fait que je dois constamment battre mes penchants, mes pulsions, ce que tu veux. Ça me saoule. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu nous a donné la vie. Akadosh Baruch Hu nous a tout donné. D'accord. Mais tu nous as aussi donné les problèmes qu'on a. Non, mais c'est de votre faute. Non, mais comment ça, c'est de ma faute? Hé, moi, j'ai rien demandé. Hein. Moi, j'étais une Neshama, tranquillement. J'ai rien demandé. Pourquoi tu me mets dans l'histoire? Alors, c'est faux. Parce que nous dit la Gemara dans Maaseret Rosh Hashanah que toute personne qui est dans ce monde sait que, avant de descendre, Dieu lui a demandé est-ce que tu veux descendre? Et il a dit, s'il est là, c'est qu'il a dit oui. Mais, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Le papa, même quand son fils, il fait des bêtises, pourquoi il doit continuer à s'en occuper? Pourquoi il doit continuer à l'aimer? Eh bien, parce que c'est finalement lui, le papa, qui a décidé que cet enfant devait venir ici. Alors oui, la neshama de l'enfant, elle a dit oui. J'entends bien. Mais lorsque l'homme s'est uni avec sa femme dans l'objectif d'avoir un enfant, c'est eux qui ont décidé que maintenant il fallait faire descendre cette neshama. Ils en sont donc responsables. C'est, agave, c'est la base de la halakha de pourquoi les parents sont responsables de leurs enfants. C'est toi qui les as amenés ici, c'est à toi d'être responsable. Et vous allez voir que c'est exactement ce que va répondre l'homme à qui le malach va s'adresser. Regardez. Ve'avom malach Hashem ve'yashem tachat ha'ela. Malach Hashem, c'est le Navi qui a été envoyé. Pourquoi est-ce qu'ici il est appelé Malach Hashem? Eh bien, quand il a un rôle à jouer, il s'appelle Navi. Quand il a fini de jouer son rôle et qu'il se, il y prend un petit peu de hauteur, il s'appelle le Malach. Ve'avo Malach Hashem ve'yashem tachat ha'ela asher be'ofra asher le'yoash avi ha'ezri. Donc il s'est posé à côté de Ofra parce qu'il sait qu'il a envoyé vers Gidon, le fils de Yoash, qui vient de la tribu de Menaché, de la famille de Ezri. Et donc, Vayar Elav, Vegidon Rabeno, Vegidon, Gidon Beno Chovet Ritim Bagat, Leanis Mipene Midian. Beno, Gidon, le fils de ce Yoash, est en train de l'Achvot Ritim Bagat. C'est qu'il est en train de préparer les épis de blé. Vous savez, la chvot ritim, c'est prendre les épis et les soulever vers le vent pour dégager les grains de blé du reste des brindilles. Mais sauf que normalement, on ne fait pas ça dans un gat. Un gat, c'est un pressoir à vin. Normalement, pour enlever pour prendre le blé, quoi, on se met dans ce qu'on appelle un goren. c'est-à-dire dans le champ, parce qu'on a besoin de beaucoup de vent. Gat, c'est un endroit qui est en renfoncement, en bas, par rapport à la surface du sol, et qui est entouré de murs. C'est là où on va récolter le vin. Ce n'est pas un endroit stratégique pour commencer à faire... Alors, pourquoi il le fait ? Parce que comme c'est pas souterrain, mais c'est un petit peu en contrebas, mais il peut se cacher de qui ? On a dit des Midianim qui sans cesse viennent les persécuter. Le problème, c'est que notre Gidon, remettons-le dans notre contexte, il habite à Ophra et il est le fils de Yoash. Yoash est le maire de Ophra, il est le chef de la ville. Toute la ville de Ophra, à ce moment-là, est Oved Avodah Zarah. Ovdim, la Baal, Vela Ashtored, Vema Shtalorote. Y compris Yoash. Le seul dans la ville chez où l'Oved Avodah Zarah, c'est Gidon. Alors regardez ce qui se passe ici. Vayera Elav Malach Hashem. Ah oui, moi je suis un Malach Hashem, je suis un Navi, je suis un religieux. Donc je vais parler aux religieux du village. Vayera Elav Malach Hashem. Vayomer Elav Hashem Imcha Gibor Echaïl. Dieu est avec toi, vaillant, chef de guerre. Moi, tu viens, tu m'emmènes un Navi, un Malach, et il me dit, Dieu est avec toi. Je lui dis merci. Mais ce n'est pas ce que Gidon dit. Yomer Elav Gidon, Bi Adoni, Yesh Hashem Imanu, et là, on va mettre ça à nous, Kolzot. Il dit, ah bon, Dieu, il est avec nous. Attends, deux secondes. Ce n'est pas ce que le Malach, il a dit. Le Malach, il a dit, Dieu est avec toi. D'accord. Et Gidon est en train de lui dire, je n'accepte absolument pas ce que tu es en train de me dire. Dieu, il est avec nous, Am Israël. Il nous a promis à nous, il n'a pas promis à moi. Donc ne me la joue pas, Dieu est avec nous. Regarde dans quelle situation on est. Ben, qu'est-ce qu'on peut répondre à Gidon ? Quelle situation tu es ? D'accord, mais regarde dans quel état les Bnei Israël se comportent avec Dieu. Donc c'est normal. Seulement, Gidon n'accepte pas cet argument de dire, parce qu'on a fauté, alors on mérite de prendre sur la tête. Il dit, regardez, ולמה מצאתנו כל זאת? והיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו למור, הלו ממצרים כל לנו השם ואתה נטשנו השם ויתננו בכף מדיין. גדעון ידיד, אבור, Dieu est avec nous? Regarde notre situation. Où est passé le Dieu qui nous a sorti d'Égypte? J'ai entendu parler de tout ce que Dieu a fait en Égypte. Pourquoi il ne nous sauve pas? Le Talmud va nous dire que ce soir-là, où le malach s'est dévoilé à Gidon, c'est là, le matin-là, la veille où le malach s'est dévoilé à Gidon, c'était l'El HaSeder. Et donc Gidon, il a entendu son père lui raconter la sortie d'Égypte et faire le Hallel, Balaïla, comme un Pessah, comme Yom HaAtzmaout. Et il dit, mon père, il a dit, Betet Hashem, Betet Yisraël Mitzrayim, Bet Yaakov Me'am Lo'ez. Et on a dit que donc j'ai entendu hier soir qu'on m'a raconté que Dieu a sorti nos ancêtres d'Égypte. Or, mes ancêtres d'Égypte, ils étaient sacrément plus pourris que nous aujourd'hui. Parce que mes ancêtres en Égypte, ils servaient que les dieux égyptiens. Nous, on fait de la Avodah Zarah, mais on est aussi en rapport avec Dieu. Donc c'est déjà mieux. Donc si Dieu les a sortis, eux, d'Égypte, qu'ils ne méritaient pas, mais il les a quand même sortis. Nous aussi, même si on ne mérite pas, Dieu doit nous sortir d'Égypte. Sachidou Jatsoum, Gidon est en train de dire pourquoi Dieu est responsable de nous, parce qu'il a choisi de nous prendre comme peuple, qu'il a choisi de nous sortir d'Égypte, et fait merde. Maintenant, c'est son boulot de nous prendre soin de nous. Et on fait n'importe quoi, Yéhazak. C'est fantastique. C'est fantastique. C'est ma mâche, Reblevi Itzragmi Berditchev. Comprenez-moi bien. Gidon, c'est un chidouche énorme. Il dit, je m'en fiche, Am Israël, il fait des avérotes. C'est ton problème. C'est ton problème, Dieu. C'est à toi de gérer ça. Ma mâche kacha. C'est comme on raconte sur Reblevi Itzragmi Berditchev, maintenant dans le Kudushat Lévi, que Reblevi Itzrag, à chaque Yom HaKippourim, il venait avec des listes. Il y avait une petite liste et une grosse liste. Dans la petite liste, il avait marqué toutes les avérotes de sa communauté et du peuple juif. Il dit, voilà, cette année, ils ont fait ça, on a fait ça pas bien, on a fait ça pas bien, on a fait ça pas bien. Ça, c'est ma liste. Iné, je viens de faire le vidouille de tout ce qu'on a fait pas bien cette année. Allez, maintenant on passe à l'autre liste, hein, tu veux bien? Le gros pavé, et il commence à lire. Voilà, voilà la liste de tout ce que toi, tu as fait pas bien cette année, Dieu. Et il commence à lire. Il dit, bon, tu sais quoi, je vais m'arrêter. On va faire simple. Il y a la liste de ce que toi, tu as fait pas bien, et il y a la liste de ce que nous, on a fait pas bien. Genre, tu passes l'éponge pour ce que nous, on a fait pas bien, nous aussi, on passe l'éponge pour ce que toi, tu as fait pas bien. C'est Chidush Atzoum. Kadosh Baruch Hu, c'est toi qui nous as choisis. Donc, à partir de ce moment-là, Ben Kach ou Ben Kach Nikraim Banim, et donc tu dois t'occuper de nous. En malazot. Et c'est ce que dit Gidon. Il dit Ve'ata natashanu Hashem ve'itnenu be'kaf Midian. Va'yifen elav Hashem va'yomer lecha lech be'kochacha ze ve'oshata et Israël. Mikaf Midian, hallo shelachticha. Vu qu'il a répondu comme il fallait au Malach, enfin, Dieu se dévoile à lui. Passe plus par un intermédiaire, plus par le Navi, plus par le Malach. Dieu se dévoile à lui et lui dit, Atatsodek. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, va avec cette force-là. De quelle force on parle? De la force de ton histoire, de la force de ce que tu sais de l'époque. L'er bekochacha ze, ve'oshata et Israël. Mikaf Midian, alors je l'artira. C'est pour ça que je me suis dévoilé à toi. Vas-y. Donc, le premier enseignement fondamental de la névoie de Gidon, c'est que notre lien avec Akadosh Baruch Hu ne dépend pas de si on a fait bien ou si on n'a pas fait bien. Akadosh Baruch Hu doit nous emmener la Géoula, Ben Kach ou Ben Kach. Et en fait, c'est une réponse extraordinaire à la Machloket. C'est ça qu'il y aura plus tard entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, à savoir est-ce que la Géoula tluya bitshuva ou lo. Bien que Rabbi Eliezer dise que oui, Rabbi Yehoshua dit que non. Et la halakha est comme Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire, la Géoula, elle ne dépend pas de la tshuva. Dieu, tu amènes la Géoula, tu libères ton peuple, kacha, parce que tu as promis. Yomer bi Adonai, bema oshia et Israël, ine al bi adal, mi menaché, ve anochi atzair ve betavi. Il dit, non. Bon alors, écoute, Dieu, merci beaucoup de tout l'honneur, mais comme dirait l'autre, les grands sonneurs, je vais les faire au Rabbi Zeligman, mais pas moi. Et là, on va retrouver tous les motifs, toutes les mimiques de Moshe quand il sort de chez Midian. On se rappelle de l'Aïd-Modédout avec Midian. Et quand Moshe, Dieu lui parle au buisson, il ne veut pas y aller non plus. Et ben, on retrouve les mêmes phrases dans la bouche de Gidon. Il dit, non, nous, Benat, je suis du plus petit des Shvatim et je suis le plus jeune de ma famille. Non, Matim, non, Matim, non, Matim. Dieu lui dit, Eye Imcha. À qui il avait dit ça déjà avant? À Moshe, au buisson. C'est-à-dire que Dieu lui dit, Altidag. Moshe aussi, il avait des problèmes. Moshe aussi, il pensait qu'il ne méritait pas de sauver le peuple juif. Mais il méritait. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas laisser l'Égypte faire ce qu'il faisait. Toi, tu as compris que mon lien avec le peuple juif ne dépend pas s'ils sont bessédères ou pas bessédères. Encore une fois, je ne suis pas en train de faire comment on dit, un plaidoyer pour faire des avérotes. Bien sûr que non. Mais ça veut simplement nous dire que notre relation à Dieu ne dépend pas de si on a fait bien ou pas bien. Et donc à ce moment-là, Vemelav, imna matzati chen be'enecha ve'asitali ot she'ata medaber imi. Comme avec Moshe, j'ai besoin que tu me donnes un signe que effectivement, eh ben, tu dois m'envoyer moi. Nounou, alna tamush mizeh. Adboi elecha veotseti et minchati veinachti lefanecha. Vayomer, vayomazra, anochi eshev atshuvecha. On dit, bon, reste là, je vais chercher un corban. Tchik tchak. C'est-à-dire qu'il comprend que sa relation à Dieu, pas passe par la Avodat Hashem, mais doit être accompagné de Avoda. C'est-à-dire que, et là aussi, c'est un chidouche énorme de Gidon. Il dit, attends, non, chien, Anibal a sot mincha. C'est, combien de fois on a entendu, ah non, mais moi, je suis dati balève. Ah non, non, mais moi, je suis religieux, tu te rends pas compte. J'ai une spiritualité incroyable. Et Agave, très, très souvent, c'est vrai. C'est vrai, c'est des mecs, tu parles avec eux. Mâche, quoi. Grosse spiritualité. Pratique des mitzvot. Vas-y. Dati balève. Non, non, non. Il y a un moment donné, il faut être cohérent. Et donc, il revient. Vegidon ba vayaz gedizim vefat kemach matzot u basar sam basal vamrak shan sam bash baparotcha vayotze elav el tachat elav vayigash. Omer elav malach ha-Elohim kach et ha-basar ve et ha-matzot vanach el ha-sela ha-laz ve et ha-marak shefoch vayaz ken וישלח מלאך השם את קצה המשענת אשר בידו, ויגע בבשר ובמצות, ותעל אש מן הצור, ותאכל את הבשר ואת המצות, ומלאך השם הלך מעיניו. Vous comprenez qu'on est toujours dans la même optique. Pour que Dieu se dévoile à la Guidon, il y a un truc qui brûle. Comme à l'époque du buisson. וירא גדעון כי מלאך השם הוא. ויאמר גדעון, אדוני אלוהים, כי על כן ראיתי מלאך השם פנים אל פנים. מי זה כי אנקור וו דיו פנים אל פנים? גדעון, משה, משה, גדעון, ממקומבה. ממש. אגב, entre parenthèses, גדעון est le grand ménachéen de l'histoire. Le grand personnage de Ménaché, dans l'histoire de Ménaché, c'est Guidon. C'est pas Stam que dans la fin du livre de Shoftim, il y a un bonhomme qui s'appelle Yonatan Ben Gershon Ben Ménaché. Et Chazal vont nous dire non, c'est pas Ménaché, c'est Moshe. Et de rajouter à cela l'Or HaChaim HaKadosh, que Moshe et Ménaché, il y a similitude. Que Moshe, Gidon, on est dans le même monde. Moshe, évidemment, une dimension beaucoup plus grande, mais Gidon est le premier qui va avoir comme rôle officiel de l'Oshia et Israël. C'est vrai que les autres Shoftim l'ont fait également, mais là, Dieu lui dit clairement. Alors, qu'est-ce qui se passe? ויאמר לו השם, שלום לך, אל תירא, לא תמות. וואו. אל תירא, לא תמות. למה? מה קרה? Oui, parce qu'il pense que s'il a vu panim el panim, לא ירא נהיה אדם וחי. אבל אל תדאג, לא תמות. ויבן שם גדעון מזבח להשם ויקרא לו השם שלום. עד היום הזה, עודנו באופרת אבי העזרי. ויהי בלילה ההוא, ויאמר לו השם, קח את פר השור אשר לאביך ופר השני שבע שנים, והרסת את מזבח הבעל אשר לאביך ואת השירה אשר עליו תרחוט. ובנית מזבח להשם אלוהיך על ראש המעוז, הזה במערכה ולקרת את הפר השני ועלית עולה בעצי השירה אשר תרחוט. Là, là, c'est clair. Dieu lui dit, il faut détruire l'autel d'idolâtrie de ton père et le remplacer par un autel pour Hachem. C'est assourd. Puisque à ce moment-là, il y a déjà Shiloh. Et donc, à partir du moment où il y a Shiloh, on n'a pas le droit de faire des bamotes. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle Oracha. Ça va, Gidon, c'est un prophète. Et Dieu lui a dit de faire ça. Ça veut dire, fair enough. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que là, qu'est-ce qu'il lui demande de faire? Ubanita misbeach la Hashem elohecha al rosh ha-maoz hazeh b'maarecha v'lakarta et ha-par ha-sheni v'alita ola b'atzeh ha-shera asher tichot. Je veux que maintenant, non seulement tu fasses ce truc, mais pourquoi faire? C'est quoi l'objectif? Si c'est simplement faire un korban, il peut le faire dans son gâte, là, dans son pressoir. mais c'est pour servir d'exemple. Et ça va marcher. ויקר גדעון עשרה אנשים מעבדיו, ויעש כאשר דיבר אליו השם, ויהי כאשר ירא את בית אביו ואת אנשי העיר מעשות יומם ויעש לילה. Il avait peur que les gens de la ville ne l'empêchent de faire ça pendant la journée, donc il l'a fait la nuit. Mais l'objectif, c'est que וישכימו אנשי העיר בבוקר, והנה נוטץ מזבח הבעל והאשרה אשר עליו, קורתה ואת הפר השני העולה על המזבח הבנים. ויאמרו איש אל רעהו, מי עשה הדבר הזה? וידרשו ויבקשו ויאמרו, גדעון בן יואש עשה את הדבר הזה. Finalement, tout le monde a compris, c'était Gidon, mais il ne s'est pas caché. Évidemment qu'il ne s'est pas caché. Et à ce moment-là, ויאמרו אנשי העיר אל יואש, הוצא את בנך וימות, כי נתץ את מזבח הבעל וכי קראת האשרה אשר עליו. C'est-à-dire que tu vois que les gens, ils sont mamash fidèles à Baal. Ils ont dit, il a détruit Baal, il a détruit le misbar de Baal, qui meurt ton fils. Oui, mais attends. Omer Yoash le chol asher amdu alav, atem terivun le Baal, im atem toshiun oto, asher yariv lo, yumat ad haboker, im Elohim hu, yarev lo, ki natatz et misbecho. Et ben voilà, on a tout compris. Yoash, il n'y croit pas à son truc. Yoash, il est le patron des serviteurs de Baal dans son village. Mais là, il vient de t'expliquer, oui, mais je sais très bien que c'est des bêtises. Parce que qu'est-ce qu'il leur répond ? Il dit, ah, vous voulez qu'il meure parce qu'il a porté atteinte à Baal ? Eh bien, très bien. Si Baal, il est vénère, qu'il le tue jusqu'à demain matin. Genre, un yodéa chez Eshtouyot. Et est-ce que les Bnei Israël, ils le savent ou pas ? Baruch, ils le savent aussi. C'est pour ça qu'ils ne réagissent pas. C'est, dis donc, non, non, c'est bon. Vaikhalo, bayom ahou, yeru baal. Les morts, yarev bo a baal, qui n'a pas été mis bécho. C'est quand même à ça, zéou. Tout le monde sait. C'est du show. Et ça montre bien notre rapport avec l'idolâtrie. C'est-à-dire que, oui, on est attiré par l'idolâtrie. Mais on sait Behemet qu'en vrai, c'est ch'touyot. Et comme on sait qu'en Behemet, en vrai, c'est ch'touyot. Alors nous. Et en fait, c'est ça. C'est ça qui est le pétard pour la tchouva. C'est que Béhémet, on sait que la Avodazara et tout ce qui s'ensuit, Zélo Amiti. Vébassof, Sheker, Zélo Omed. D'ailleurs, c'est ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui dans le Daf Ayomi, que pourquoi est-ce que les lettres du mot Sheker ont tous un seul pied ? Shin, c'est une pointe, Kouf, c'est une pointe, Reish, c'est une pointe, pour te dire que Sheker, Zélo Omed. Quand tu tiens sur un pied, tu finis par tomber. Donc le Sheker, ça ne tient pas. Et là, il te dit, וכל מדיין ועמלק ובנקדם נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח השם לבשה את גדעון ויתקע בשופר ויזעק אביעזר אחריו. ומלאכים שלח בכל מנשה ויזעק גם הוא אחריו. ומלאכים שלח באשר ובזבולון ובנפתלי ויעלו לקראתם. ואומר גדעון אל האלוהים. C'est-à-dire que là, il a rassemblé une coalition des tribus du Nord. Tout se passe à côté d'Afoula, l'Emek Israël. Et donc, toutes les tribus qui sont en contact avec cette région-là, il les a appelées et tout le monde a répondu présent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il n'attendait, il ne fallait qu'une seule chose, c'est que quelqu'un se lance. Pendant 2000 ans, on a rêvé du sionisme. On a rêvé de revenir en Israël, l'an prochain à Jérusalem. Sauf que personne ne s'était lancé. Il a fallu que Herzl se lance et pouf, ça marche. Les gens, ils viennent. Alors il te dit, il est. Il est. On est au verset Lamed Vav. Vayomer Gidon el Elohim, im yeshcha moshia beyadi et Israel, kasher dibarta. Hine anochi matzig et gizat atzemer bagorel, im tal ye al hagiza levada, veal kol haaretz chorer, veyadati ki toshia beyadi et Israel, kasher dibarta. Il est quand même pas serein, à fond, Gidon. Et en cela, il montre qu'il n'est pas au niveau de Moshe. Et qu'est-ce qu'il demande ? Donne-moi une preuve. Donne-moi une preuve que Béhémet, ça va marcher. Il veut dire, voilà, je t'ai mis la couverture en laine par terre. Fais que demain matin, la rosée, elle a mouillé la couverture en laine. Et tout autour, la terre qui est autour, elle est sèche. Chorev. Chorban Haaretz. Et qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que Dieu il va faire ce que Gidon il a demandé? Eh bien non. Tirou. Et ne. Vayren. Vayashkem imachorat. Vayazer. Vayazer et Giza. Vayimet tal. Mina Giza. Umelo sefel maim. C'est-à-dire que le lendemain, effectivement, la couverture est pleine de rosée. Qu'est-ce qui est pour le reste? Que toute la terre autour, elle est. Non. On ne nous dit pas qu'effectivement, toute la terre autour, elle a été faite comme ce qu'il a demandé Gidon. Lama, parce que sa demande n'était pas justifiée. Ce n'est pas parce que tu veux prouver que Dieu, il est avec toi, que tu as le droit de changer Sidré Olam. La terre, elle doit être arrosée par le Tal. C'est comme Rabbi Eliezer. C'est pas parce que tu veux montrer que tu as raison que tu as le droit de faire de se déraciner un caroubier, de faire remonter l'eau et tout ça, machin. Et donc, il a compris. Gidon comprend très bien. Et à ce moment-là, il dit, OK, très bien, pas de problème. Yomer Gidon el Elohim, alicha rapech rabbi, vadabera achapam. Comme Abraham, il parlait comme Moshe, maintenant il parle comme Abraham. Tous les, encore une fois, Moshe et Abraham, c'est les relations qu'on a avec Midian. C'est-à-dire que Midian, c'est soit le maître de Moshe, soit le fils d'Abraham. Et donc, il faut devenir, pour se battre contre Midian, l'élève de Moshe qui est parti de Midian, ou le fils d'Abraham, qui est aussi le fils de Yitzhak. Et donc il dit, Anase narak apam begiza, yina chorev, va la giza levada, va al kol haaretz yetal. C'est bon, j'ai compris Dieu. J'ai compris qu'il faut finalement que, bah, en fait, tout ce qu'on fait, c'est pour le bien du monde. Tout ce que je suis en train de faire, la guerre que je vais faire, c'est pour amener que le monde entier reconnaisse que Hachem Echad ou Shmo Echad. Donc j'ai besoin d'avoir tal tria, la rosée de vie, sur toute la terre et juste Bagiza Shalatsemer, qu'il n'y ait pas d'eau. Yasa Elohim Ken Balaila Zhu, Vei Chorev Alagiza Levada, Val Kol Haaretz Ayatal. Là, c'est bon. Et fort de cette compréhension-là, il part à la guerre. Il part à la guerre, et c'est le début du chapitre 7. J'ai dit, on va commencer juste le chapitre 7 pour. En fait, vous savez bien que le découpage en chapitre, c'est un découpage chrétien, donc il ne. Il n'est pas fondamental pour nous. Donc, en fait, la névoie de Gidon, elle continue jusqu'au moment du combat. Donc, nous, on ne va pas faire le combat parce qu'on n'est pas là pour faire une tactique militaire. Mais regardez de quoi il s'agit. Vashkem Yerubal, ou Gidon, Vecholaam, Asherito, Vayachanu, Al Ein Charod, ou Machane Midian, Ayalo, Mitzafon, Migivat Amore, Baemek. Donc, Gidon est arrivé avec toute son armée à Ein Charod. Ein Charod, dans le nord d'Israël, un endroit très sympathique d'ailleurs, à visiter. Et on peut voir la Mahayan de Gidon et tout, c'est Razak Meod. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Yomer Hashem el Gidon, Ravam Asher Itach, Mititi et Midian Beyadam, Pen Nitpaer Alav, Ben Parer Alav, c'est Ra Israël, les morts, Yadi Oshiali. C'est fou! Il dit, t'as trop de guerriers, t'as trop de guerriers là, parce que là, vous allez faire la guerre, vous allez gagner, et puis vous allez dire, ouais, c'est nous qui avons fait ça. Attends, j'ai pas compris. Donc ça veut dire que depuis toujours, t'as une armée suffisamment puissante pour battre Midian. D'accord. Alors pourquoi tu t'es pas battu contre eux? Pourquoi tu les as laissés tout le temps te faire la misère? Ah, parce que je ne peux pas. Et ça, c'est un chidouche énorme. Hein, attention, c'est fondamental. Il dit, du verset, on voit que l'armée d'Israël, et encore, c'est pas toute l'armée d'Israël, là, c'est que les quelques tribus qui sont avec Israël. Ils ont une armée suffisante pour éclater Midian. Très bien. Alors pourquoi tu ne l'as pas fait? Et parce qu'à partir du moment où tu sers les dieux de Midian, tu n'as pas véritablement la force nécessaire pour les battre. Parce que battre Midian, c'est quelque part battre ce que tu représentes aujourd'hui. Et donc, tu n'as pas envie d'y aller. Et c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque Tsahal, l'État d'Israël, est empli de morale chrétienne débile et de morale postmoderne débile, eh bien, elle ne peut plus gagner ses guerres. Ah non, 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 chas v'shalom de tirer sur un enfant qui tient une kalachnikov. C'est un enfant. Et alors, moi, je me suis fait tirer dessus par des enfants quand j'étais en opération. Je peux t'assurer qu'une balle de kalachnikov, moi, je l'ai pris dans le gilet, donc Baruch HaShem. Mais je peux t'assurer qu'une balle de Kalachnikov, ça fait aussi mal. Et c'est aussi mortel de se tirer par un enfant de 10 ans que c'est tiré par un mec de 20 ans. Hein. C'est n'importe quoi. Un enfant qui tient une arme et qui veut me tuer, il doit mourir en premier. On s'en fiche de savoir s'il a 10 ans ou pas. C'est les bases de la morale que toi, tu es responsable de ta vie, évidemment, et de la vie de tes hommes avant d'être responsable de la vie de ton ennemi. Mais à partir du moment où tu es en mode morale chrétienne, il ne faut pas faire de mal aux gens, et s'ils me tapent, je tends l'autre joue, eh ben, tu ne peux pas gagner. Et donc, vu que toi, tu suis les dieux de Baal et les dieux de Midian, le fait que tu sois plus fort physiquement fait que tu n'arrives pas à gagner. Donc là, je vais te montrer que ce n'est pas une question de force physique, il faut être simplement pas du côté de la spiritualité midianite. Et donc, il nous dit... ויאמר השם אל גדעון, לא, אתה נדיד, סליחה, ואתה קראנה באוזני העם למור, מי ירא וחרד, ישוב ויצפור מהר הגלעד, מהר הגלעד, סליחה, וישוב מן העם 22 אלף, ועשרת אלפים נשארו. נדיד, סליחה, כואלה, פרמייר שוז אפר, פורקטו מונטר כתה קפב דה בטר מדיין, בסט רסם, תוסלו כי הפר, כי רונטר למזון. מה זה תוסלו כי הפר? נכון. Si tu as peur, que tu penses que ta cause n'est pas la bonne, rentre à la maison. À ce moment-là, 22 000 hommes sont partis, n'en est resté plus que 10 000. Mais c'est nachon. Quand tu as peur, tu ne peux pas avancer. Et pourquoi est-ce que là, on ne doit pas avoir peur? Parce que Dieu, il nous a dit, tu vas y aller et tu vas gagner. Donc, c'est la base de la Emouna Ba'Hashem. Mais ça ne suffit pas. Vayomer Hashem El Gidon, Odam Rav, Ored Otam El Amaim, ואצרפנו לך שם, והיה אם אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך, וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך, הוא עושה לו טסט דו לו, דידיו, זה כל טסט דו לו, ויורד את העם אל המים, ויאמר השם אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יכרע על ברכיו לשתות, ויהי מספר המלקקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו אל ברכיהם לשתות מים. זה כל הטסט? הוא אמן לי דבר לסורס, אדילר, יאללה, פוז בואסון, אלי בואר. בואו רפישות, תמונדה בוסה, תמונדה חוויה, דונק סנון פרסמון סוואף. ודונק יביאן תוס בואר. אדיבואלה, אמנון ריאר ביאן. Regarde comment il boit. Il y a celui qui boit en prenant de l'eau comme le chien il a l'habitude de le laquer, ou alors il y a ceux qui se plient le genou et qui se mettent comme ça. En d'autres termes, qui a l'habitude de plier le genou et qui amène l'eau vers lui? Ceux qui ont l'habitude de plier le genou, c'est qu'ils ont l'habitude de se prosterner. C'est que la Avodah Zara est trop puissante en eux. Tu ne peux pas les prendre pour ce combat-là, parce qu'ils sont trop attachés à cette spiritualité de Midian, comme on a dit tout à l'heure. Yomer Hashem el Gidon, Bishlosh Meot Ha'ish Amelakekim, Oshia Etrem, Venatati Et Midian Beyadecha, Vecholam Yelchu Ish Limkomo. Finalement, de 32 000 hommes, Gidon reste avec seulement 300 hommes. Et c'est avec ces 300 hommes qu'il va se battre contre Midian. ויקרו את צדת העם בידם, ואת שופרותיהם, ואת כל איש ישראל שילח איש לאוהליו, ובשלוש מאות האיש החזיק המחנה, ומחנה מדיין היה לו מתחת בעמק. Voilà, c'est de cela qu'on parle. La névoie de Gidon, c'est de nous dire trois choses. La première, notre relation à Dieu ne dépend pas si on fait bien ou si on fait pas bien. Dieu nous a choisis, et donc il est responsable de nous, car on est Béné Israël, Am Hashem, Benkar ou Benkar. Maintenant qu'on sait ça, eh bien, la deuxième névoie de Gidon, c'est de comprendre que eh bien, tu te dois de ne pas tomber dans le midianisme, c'est-à-dire dans la possibilité, l'alternative qui est donnée à Am Israël pour servir à Kadosh Baruch Hu. Midian en tant que alter ego de Moshe, si vous voulez, de fils d'Abraham. Et enfin, eh bien, pour pouvoir mener à bien le projet de relation à Dieu, eh bien, il faut que tu montres à quel point tu n'es effectivement pas influencé par la Avodah Zara qui t'entoure, que ta cause à toi est la bonne, que tu es fier de porter haut et fort tes idéaux, et c'est ça qui te permet non seulement de la Avodat Hashem, mais de réussir ta mission sur Terre. À bientôt pour de nouvelles aventures de la Nevoa dans tous ses états. On sera toujours dans le livre de Shoftim la prochaine fois, mais cette fois, on ira à la rencontre d'un Shofet beaucoup plus spécial, un Shofet aux cheveux longs. Préparez-vous pour l'immersion avec Shimshon. La semaine prochaine, à bientôt.